Pauline Pucciano, Titania 3.0, chapitre 13, cellule de crise. La salle de réunion de Morgan Corp était pleine d'éclats de voix, mais lorsqu'Irina Morgovic entra, tous ses associés se turent. Elle était flanquée de 4 libertons qui la suivaient partout. Son avocat, Maître Régenville, qui n'avait pas retiré ses lunettes de soleil et qui paradait dans un costume onéreux, sa chargée de communication, son garde du corps et sa secrétaire. Cette petite horde demeura sur le seuil de la porte tandis qu'elle s'avançait, théâtrale, dans le silence qui venait de se faire. Irina Morgovic portait sur sa personne l'équivalent d'un an de salaire d'un employé de Morgan Corp. La richesse des étoffes, des bijoux, des crèmes et des teintures la rendait d'une certaine manière attirante. Où qu'on portât les yeux, tout était impeccable. Les ongles avaient une forme parfaite, la peau était épilée avec soin, les cheveux bruns, artificiellement bouclés, étaient figés dans un brushing inaltérable. À l'instar de toutes les femmes du 22e siècle, elle n'avait pas d'âge, c'est-à-dire que l'éclat naturel de la jeunesse l'avait quittée, mais qu'elle parvenait à se persuader que l'éclat de tout le reste était à même de compenser cette perte. Elle portait un vêtement crème, d'une merveilleuse fluidité, qui cachait et dévoilait en même temps ses formes d'une minceur irréprochable. « Irina, assieds-toi et fais sortir tes chiens de garde. »«
Je souhaite que Maître Régenville... »«
Tu te débrouilleras très bien sans lui. » Irina fit un signe rapide à ses sbires qui s'éclipsèrent docilement. Elle n'avait l'air ni intimidée, ni effrayée, ni en colère. Elle était à l'aise, comme toujours, et sûre de son fait. L'homme qui lui avait demandé de faire sortir sa cour était le directeur général. Les autres actionnaires, au nombre de 9, étaient tous présents. « Très bien, » dit-elle. « Je suppose que si mon avocat n'est pas convié, c'est qu'il ne s'agit pas d'un procès ?»«
Ne plaisante pas, Irina. L'heure est grave. » »«
Nous avions été très clairs et nous pensions avoir un accord, » dit un autre actionnaire d'un ton agressif. « Il me semble que tu étais largement dédommagée de ton deuil maternel. »
Irina ne répondit pas. Et, le menton haut, tourna la tête vers les autres actionnaires comme pour les inviter à poursuivre la lecture de leur chef d'accusation.
« Comment as-tu pu organiser la fuite de 7 millions, Irina? Tu as perdu la tête !»«
Le milliardaire n'a pas survécu à l'anesthésie. Sa famille est en train de porter plainte contre Morgan Corp. Je n'ose imaginer les dommages et intérêts qui seront demandés. Ce n'est pas 7 millions, c'est au moins 20 !»
Irina éclata d'un rire faux.
« La famille du milliardaire n'aura rien, et vous le savez très bien. On ne recourt pas à la justice quand on fait des affaires illégales et qu'on perd sa mise, et les décharges que nous faisons signer aux clients sont juridiquement imparables. »«
Non, peut-être, mais on peut recourir à la Camorra. »«
Nous réglerons cela à l'amiable, je ne suis pas inquiète. »
Le directeur général manqua s'étouffer.
« Tu n'es pas inquiète ? Elle n'est pas inquiète, mes amis. Réjouissons-nous. »
Irina marqua une pause pendant laquelle elle examina attentivement l'un de ses ongles.
« Je ne suis pour rien dans le rapt de Daphné. »
Les protestations qui s'élevèrent furent presque assourdissantes. Elle leva la main pour parler, et rouge de colère, ses associés consentirent à se taire.
« Qu'est-ce que vous croyez? Que je compromettrais mon accord avec vous? Pour une fille qui m'a renié depuis des années et qui me déteste?
Fabre m'a dit que tu étais intervenue pour stopper l'échange. »
« Oui, Maître Régenville est allé là-bas pour enregistrer la preuve que j'ai essayé de la sauver. Vous avez tous vu l'émission de Locard. La meute des chiens est à mes trousses. »«
Tu essayes de nous faire croire que tu n'as pas organisé son enlèvement. »«
Je le répète, je n'y suis pour rien. »«
Je ne la crois pas. »«
Moi non plus. »«
Mais quel intérêt aurait-elle à la sauver ?» lança une autre femme, une rivale qui connaissait peut-être mieux Irina que tous les autres. « Essayez de réfléchir avec votre tête plutôt qu'avec le reste. » « Citez-moi une seule occasion où Irina a agi sur un coup de tête, ou plus encore, sur un coup de cœur. »
Les actionnaires se turent, déstabilisés. « Citez-moi une seule fois où Irina a agi pour une autre raison que la poursuite de son intérêt. »
Irina éclata à nouveau de rire, un rire bourgeois, plein de désinvolture et de mépris.
« Beau plaidoyer, ma chère, mais tu as tapé dans le mille. »
Je répète ma question, quel intérêt aurait-elle à la sauver ?
Les actionnaires s'entre-regardèrent.
Croyez-moi, mes amis, j'ai longuement étudié toutes les options qui se présentaient à moi avant de m'engager sur ce contrat.
Les conséquences d'une rupture de ce contrat, je les connais par cœur. Retrait de mon précium Doloris, perte des bénéfices sur le contrat à hauteur de 29%, ce qui n'est pas tellement négligeable, baisse de la cote de Morgan Corp que j'estimerais, au vu des dernières informations, à un manque à gagner encore plus considérable. Non, croyez-moi, je partage votre fureur. Les associés commençaient à la croire. Qui alors ? Je n'en ai aucune idée, mais je compte le découvrir au plus vite, dit Irina. Ces misérables n'ont pas fait de demande de rançon, n'est-ce pas ? Les HR de leur propre chef ne font pas ce genre d'action. La Camorra aurait employé des professionnels. Daphné a peut-être commandité son propre enlèvement, toute seule. Elle-même ? Mais oui, qui d'autre pourrait avoir intérêt à la sauver ? Elle a très bien pu organiser tout ça pour nous doubler, pour me doubler. Il faut revoir complètement la sécurisation des contrats spéciaux, fit remarquer le directeur général. Nous n'avons jamais eu de problème jusqu'ici. Il suffit d'une fois. Et puis nous avons ce problème de la presse, Irina. Irina observa un silence. Je sais, mais pour ça vous devez me faire confiance. La presse, c'est mon rayon. Il suffit que je retourne le réseau en ma faveur. La rivale d'Irina éclata de rire à son tour. En ta faveur? I wish you good luck, my dear. J'ai fait des choses beaucoup plus difficiles que cela dans ma vie, et je les ai toujours réussies. Ta réputation ne nous intéresse pas, Irina. C'est l'image de Morgan Corp qui va en pâtir. Avec les conséquences financières que l'on sait, et tu sais très bien quelle est la solution. « Le fusible ? » demanda-t-elle, comme si elle s'attendait à la réponse. « Le scénario sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord. C'est toi qui as organisé ce contrat spécial, sans l'accord de la direction. Nous nous portons partie civile contre toi. Tu quittes Morgan Corp en revendant tes parts à un prête-nom, et tu gères toute seule la pagaille juridico-médiatique que ta fille a déclenchée. » Irina hochait la tête comme si on lui proposait un menu au restaurant. « J'ai un bien meilleur scénario, » déclara-t-elle. « Celui-là manque vraiment de piquant. » Les autres actionnaires, excédés, murmurèrent. « Écoutez-moi au moins, vous prendrez votre décision après. » Le directeur général fit un signe pour qu'on la laissât parler. « Mon scénario est très simple. On les retrouve, elle et la bande de macaques qui l'a sortie de là. » On fait pression sur elle pour qu'elle retourne chez Locard et démente tous ses propos. Je vois très bien un mea culpa suivi par des millions de spectateurs, la confession de Daphné Morgovic. Elle reconnaît publiquement avoir calomnié Morgan Corp, le contrat spécial n'existe pas, le cours de l'action remonte et nous échappons au pire. Et la famille du milliardaire? Je la dédommage avec mon précium Doloris. Tu y renoncerais totalement. Voyons, je n'ai pas perdu ma fille, il est juste que je n'y prétende plus. Les actionnaires se mirent à réfléchir, certains en silence, d'autres avec leurs voisins immédiats. « Et Daphné ?» demanda l'un d'entre eux. « Elle en sait trop. »« Je suis d'accord, » dit Irina. « Qu'est-ce que tu envisages à ce sujet ?»« Je ne sais pas encore. Une overdose, peut-être, ou un reformatage de sa mémoire. »« Leave it to me. » Le directeur général était en train de chiffrer mentalement les retombées des deux scénarios. Et comme toujours, il devait reconnaître qu'Irina Morgovic était imbattable en affaires. Sa proposition était de loin la meilleure pour l'entreprise. « Il faut que l'on retrouve Daphné dans les plus brefs délais. » Un sourire de triomphe assez discret flottait sur les lèvres d'Irina. « J'ai déjà pris rendez-vous avec le conseil d'administration de la police, » dit-elle. « Ils n'attendent que mon feu vert pour une visioconférence. » Les tourneaux avaient eu besoin de prendre l'air quelques minutes en sortant du bureau du commissaire pour faire cesser la cuisson de ses oreilles et de son amour-propre. Le spectacle des piétons, dans leur valse mécanique, lui fit du bien. Son Hervé avait mesuré une durée de 14 minutes de réprimande, suivie de 7 minutes de menace en cas d'échec. Le message, somme toute, était tout à fait clair. Il était pratiquement responsable de la débâcle de l'échange, et s'il ne retrouvait pas cette fille d'ici 24 heures, il pouvait faire un trait sur sa carrière. Il lui fallait donc se mettre au travail, et vite, sauf que son état mental et physique ne lui permettait pas du tout de se concentrer sur quoi que ce soit. Il avala donc une pilule verte, pour la relaxation, suivie d'une autre rouge, pour la stimulation nerveuse. La détente musculaire et respiratoire fut presque instantanée, et il regagna son bureau d'un pas plus calme. Le coup de fouet cérébral et moteur arriva peu après, alors qu'il venait juste de s'asseoir. Il se releva d'un coup, galvanisé, et se mit à penser plus vite, avec une clarté rassurante. Ses mains activèrent son Hervé sans y penser et ouvrirent des fenêtres multiples.
tandis que s'affichaient les enregistrements des caméras de surveillance de Morgan Corp, celles de l'appartement de Titania et celles de son flux direct OMS, il songea que, sans ses pilules, il n'était capable de rien. Puis, le problème à résoudre envahit son entendement, son imagination, sa mémoire, et sa concentration fut si totale qu'il oublia tout ce qui avait eu lieu avant et tout ce qui aurait ou n'aurait pas lieu après l'enquête. Lorsqu'un visionnage simultané des différents enregistrements lui eut démontré que Titania n'avait probablement pas triché et qu'elle se comportait, chez elle comme à Morgan Corp, comme une personne qui allait vraiment mourir, il reporta son attention sur Jean. Jean qui ne payait pas de mine avec son air éternellement désabusé. Jean qui s'était payé sa tête depuis le départ et qui avait organisé dans son dos le sauvetage le plus improbable, le plus minable et pourtant le plus efficace qu'il ait pu observer. Les tourneaux s'en voulaient, depuis le savon qu'il avait pris tout à l'heure, parce qu'il connaissait, comme le commissaire le soulignait sans ménagement, la relation amoureuse de Jean et de Titania. « Ne me dites pas que vous êtes tombé amoureux de cette poupée artificielle, lui avait-il dit. « Je suis sentimental, avait répondu Jean. Et, non content d'être sentimental, il avait aussi percé à jour l'histoire du contrat spécial. Le tout était tellement anachronique, tellement daté, que les tourneaux n'y avaient même pas songé. S'imagine-t-on qu'un homme, parce qu'il est nostalgique de la chevalerie, va prendre une épée pour réparer les torts? Non. Et l'on ne pouvait pas envisager qu'un jeune écrivaillon romantique puisse réellement sortir du réseau pour les beaux yeux d'une fille qu'il avait vue deux fois. Mais voilà, c'était ce qu'il avait fait, si saugrenu que cela parut à les tourneaux. Il avait effacé d'un revers de main le siècle dans lequel il vivait, ses usages, ses coutumes, son système de valeurs. Il avait renoué avec les sornettes d'avant la crise et avait fait passer une attirance passagère avant sa propre sécurité. Les tourneaux passa un bref appel à l'unité de production où travaillait Jean et apprit sans surprise que celui-ci s'était fait porter pâle vers 10 heures. Il envoya un message pour obtenir l'autorisation d'une perquisition à son domicile et lança simultanément une requête en géolocalisation de son RV, à laquelle il ajouta, à tout hasard, une requête pour le RV de Titania. Alors qu'il recevait l'autorisation de perquisition, le RV de Titania apparut comme éteint, dans la zone nord-ouest de la capitale, et celui de Jean, dont la localisation était beaucoup plus précise parce qu'il était allumé, se trouvait sur la ligne 1 du métro, en direction de Vincennes. Les tourneaux pouvaient suivre sa trace en temps réel, la localisation précise du RV de Titania prendrait sans doute un peu de temps. Ils n'étaient donc pas ensemble. Cela le surprenait, et cela le fit même douter de l'hypothèse qui lui avait paru si limpide tout à l'heure. Après tout, Jean s'était peut-être fait porter pâle parce qu'il savait que sa dulcinée vivait son heure dernière. Pour en avoir le cœur net, il enregistra l'autorisation de perquisition qui lui donnait accès au déverrouillage électronique de l'appartement, attrapa un kit technique et se mit en route. Dehors, les passants, le mobilier urbain et même les bâtiments lui paraissaient faux, comme un décor de cinéma construit juste pour cette enquête qui occupait totalement son esprit. C'était toujours le cas lorsqu'il avait recours aux amphétamines. Le sentiment de sa toute-puissance le plaçait un peu à l'écart du monde, comme dans un jeu 3D, une sensation à la fois grisante et dangereuse, comme si une frontière essentielle et invisible avait soudain été traversée. Il fallait décidément qu'il fasse attention à ces maudites pilules.